Merci beaucoup. Effectivement, j'ai gardé un très bon souvenir d'ailleurs des échanges. Je crois que c'était début 2012, mais c'est à vérifier. Donc, un peu moins d'un an après Fukushima, effectivement. Donc, merci. Je pense que bon, j'ai une légère bronchite. Ça pourrait être pire, donc pour l'instant, ça va. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. C'est pas plus mal parce que ça va me freiner un peu, parce que parmi les énormes défauts que j'ai, il y en a où le débit verbal est parfois un peu fort. J'ai beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à m'arrêter, même dans la première partie. Je veux dire, je comprends que c'est important qu'il y ait une partie exposée, puis discussion, mais enfin parfois il y a des choses qui vont pas de soi, des questions se posent. En fait, je n'ai que des questions, comme on dit souvent, c'est un peu une espèce de pirouette de chercheur, mais des propositions qui sont en réalité des questions de recherche que j'essaye de mener avec mes collègues du groupe de sociologie pragmatique et réflexive, qui est un petit groupe de l'EHESS qui vit sa vie depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui était bon une scission. Amical serait quand même un peu excessif. Inamical serait aussi excessif. Avec le groupe de Boltanski et Thévenot, dont j'étais issu, hein, puisque j'ai quand même passé 15 ans aussi chez eux, en fait. Voilà, groupe de Boltanski et Thévenot, le groupe de sociologie politique et morale qui a disparu depuis. Vous voyez, comme quoi. Puisqu'il y a eu là une forme d'implosion pour différentes raisons. Donc, le titre, je l'avais donné comme ça, à distance, vraiment. De la sociologie pragmatique au pragmatisme critique, en fait, ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que je me situe dans une des branches de la sociologie, des sociologies pragmatiques. Moi, je mets le pluriel, c'est un peu un pli des pragmatistes, hein, de pluraliser les choses, dans laquelle la relation entre le pragmatique et la critique n'est pas une relation monstrueuse. Enfin, il n'y a pas de problème à passer à des opérations critiques à partir d'une enquête sociologique. Contrairement à d'autres collègues, que je ne citerai pas forcément toujours, donc n'hésitez pas à me demander de qui je parle, je ne pense pas qu'il faille rompre définitivement avec la sociologie critique, par exemple, pour faire de la bonne sociologie. Je trouve que c'est même d'ailleurs une injonction qui est extrêmement dangereuse, a fortiori dans un état du monde qui a beaucoup évolué depuis l'origine de ces slogans, où il y avait sociologie critique, donc en gros Bourdieu, hein, faut le dire, et puis la sociologie de la critique, c'est-à-dire ceux qui prenaient pour objet les opérations critiques des acteurs, sans les juger, bien sûr, mais enfin quand même en mettant à distance toute opération de critique du social que d'autres sociologues prenaient en charge. Et je trouve qu'aujourd'hui, les choses se redistribuent, se remélangent, et qu'il n'y a pas à tenir cette frontière comme une frontière, comme la frontière américano-mexicaine. Non, hein. On ne va pas mettre des murs là où on peut au contraire créer des circulations. Mais c'est étonnant parce que certains collègues, notamment, ils sont tout un collectif, ont publié en 2013 ou 14. Merci. Un mode d'emploi, sociologie pragmatique, mode d'emploi, qui explique que justement, et alors le problème c'est que ça marche bien avec les étudiants parce que vous avez un mode d'emploi, donc vous avez la sociologie pragmatique, vous avez les 12 ou 14 règles à appliquer, et normalement si vous les appliquez vraiment, vous devenez complètement idiot à la fin, mais bon, ça c'est mon point de vue. Non, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il faut faire des alliances nouvelles. Et vous allez voir que je fais même des alliances presque contre nature, par endroit, etc. Donc j'ai repris un peu ce que j'ai fait ces derniers mois. En gros, il y a eu des événements importants ces derniers mois, pour moi en tout cas, dans mon parcours, puisqu'il y a eu un colloque très important à Brasilia, organisé d'ailleurs par des collègues du Centre d'études des mouvements sociaux, en particulier Daniel Cefai et Nicolas Daudier, et des collègues brésiliens, qui s'appelaient pragmatique et critique. C'est ça, pragmatisme et critique. Et l'idée étant justement de travailler sur ce mouvement de balancier, quelle position trouver face à nos objets. Est-ce que tous les objets se prêtent au même type de description? À l'évidence, non. Certaines enquêtes conduisent à faire des dévoilements, à révéler des choses qu'aucun acteur n'avait révélées. Or, dans le programme de la sociologie pragmatique un peu doctrinaire, on ne fait rien que les acteurs ne font pas déjà eux-mêmes. Ce qui est problématique, parce que ça suppose que les acteurs ont les prises, les moyens de faire, par exemple, une révélation publique. Or, quand vous avez les moyens et que les acteurs ne l'ont pas, ça serait quand même idiot de s'en priver. Enfin, voyez, c'est ce genre de paradoxe, surtout au Brésil, le Brésil contemporain qui, comme vous le savez, est dans une sacrée trajectoire. Et où, justement, beaucoup de collègues qui s'étaient intéressés au pragmatisme européen, au français en particulier, avaient rompu avec la critique sociale de premier degré, un peu dure, on va dire d'inspiration marxiste ou bourdieusienne, et ne voulaient plus entendre parler du Parti des Travailleurs. Bon, ben là, ils sont gâtés. Ouais, ils ont, voilà. À force de ne plus vouloir entendre parler du Parti des Travailleurs, hein, Lula et Dilma, pour les appeler par leur prénom, vraiment, c'était une espèce de rejet des intellectuels. Au nom précisément d'une approche acritique, descriptive, analytique, etc. Donc moi je trouve qu'il y a des configurations politiques dans lesquelles ces partages doivent être interrogés. Et ça c'est une véritable démarche pragmatiste, c'est-à-dire dans le sens des fondateurs du pragmatisme. Je pense évidemment à John Dewey, qui est actuellement un peu en train de revenir, enfin il revient souvent d'ailleurs, mais sur la scène, parce que c'est un des penseurs de la démocratie qui est assez intéressant. Les marxistes lui ont souvent reproché son côté social-démocrate. Évidemment, dans le contexte dans lequel il a pensé et agi, il aurait du mal à faire autrement. Mais en réalité, quand on regarde, il y a une profondeur à la fois dans la démarche et dans les axiomes de ce pragmatisme qui est intéressant. Et c'est un peu ça que je voudrais partager. C'est pourquoi, au fond, ces dernières années, j'ai un peu relu, retravaillé des aspects. Alors, un point 1. J'espère qu'on aura le temps de tout voir, mais n'hésitez pas à me dire ce qu'on veut, c'est le 7, ou c'est le 5, ou c'est le 3, et puis vos trucs, vos blabla, machin, laisse tomber. Il faut pas, il n'y a pas d'ordre véritable. J'aurais pu commencer par la fin, en fait. Le premier, c'est au fond où j'en suis de cette histoire de suivre des processus critiques, et justement quel type de rapport à la critique ça engendre. Le deuxième point, c'est plus sur cette revendication d'une pragmatique des transformations, qui est le sous-titre du bouquin là, qu'on a fait avec Josquin de base. C'est-à-dire justement d'essayer de penser les choses dans la durée et d'essayer d'avoir une pensée des processus qui vont amener les acteurs sur des nouvelles positions, les faire changer de système de valeurs, revoir, réviser leurs options, hein, comme on dit en économie. En l'occurrence, en matière d'écologie, c'est assez central. Hein. Vous décidez de revendre votre vieille bagnole diesel et puis d'acheter une voiture toute neuve, hein, par exemple. Voilà, c'est une façon de réviser ses options. Le point 3 qui est important, parce que cette pragmatique a subi des coups assez violents venant de gens, notamment autour des unions rationalistes et autres associations françaises d'information scientifique, qui sont des défenseurs de la science pure, qui nous accusent de relativisme. Or, en fait, depuis le début, dans le genre de sociologie que je développe avec d'autres, la question de la preuve, du tangible, est au cœur de la démarche. On n'a absolument aucun problème à prendre au sérieux ce qui fait preuve, ce qui fait sens pour les acteurs dans leur rapport à la matérialité du monde, pas du tout relativiste. Donc là, c'est pénible quand il y a des malentendus qui courent comme ça. Donc repasser par là, c'est peut-être le plus ennuyeux, parce que peut-être le plus connu, je ne sais pas. J'avance un peu comme ça, vous me dites. Hein. Le point 4, qui est un point important, parce que depuis, effectivement, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai beaucoup investi des questions du futur. Au fond, comment la sociologie, déjà dans ses fondateurs, Max Weber, Durkheim et d'autres, dans ses derniers travaux, aborde la question des représentations du futur, est un des enjeux majeurs pour justement donner à la discipline aussi son statut épistémique et axiologique face à d'autres disciplines qui, elles, n'hésitent pas, la philosophie en particulier, le droit, l'économie, à avoir des visions du futur beaucoup plus structurées. Mais en général, les sociologues s'en sortent en disant c'est des croyances, y a des espèces de représentations du futur, c'est des imaginaires, mais sans leur donner forcément une structuration. Donc là, j'ai essayé de structurer un peu. Et alors le titre « Le futur a encore besoin de nous », c'est peut-être cryptique pour ceux qui ne connaissent pas le débat, mais ça fait référence à un texte célèbre publié dans le New York Times, je crois, qui s'appelle « The future doesn't need us ». Voilà, « Why ». Oui, exact. C'était en plus dans une revue spécialisée en informatique. Merci. Par Bill Joy, qui était un des inventeurs d'un système informatique important, je ne sais pas si c'est pas autour de Linux, enfin je ne sais plus. Et qui a dit il est en train de se passer des choses dans les technologies qui fait qu'en bientôt, notre humanité sera menacée. Quoi. C'était un texte visionnaire. Et c'est vrai que cette idée que le futur a encore besoin de nous, c'est plutôt un engagement de regarder comment les acteurs, au fond, le construisent et ne sont pas littéralement définis par des trends, des tendances, des choses qui les emporteraient inévitablement. C'est pas plus tard qu'hier, vous savez sans doute, une information est tombée. Un chercheur chinois aurait utilisé CRISPR-Cas9, qui est une des nouvelles technologies génétiques très en pointe, pour éditer, alors ça le terme éditer, édition génétique, c'est tout un débat, parce que c'est ambigu, donc des enfants, des génomes, à partir d'une manipulation des génomes, ce qui soulève évidemment un tas de problèmes. Et donc effectivement, cette perspective d'un futur où certains disent, de façon inévitablement, ça va se produire, et d'autres disent pas du tout, on peut réguler ça sérieusement, et de toute façon, il y a plein de problèmes dans ces technologies qui vont faire qu'elles vont très vite apparaître pour ce qu'elles sont, à savoir du bricolage. Vous avez toujours des versions en tension, et donc c'est important de voir que le « nous » en question, c'est aussi les collectifs humains qui se saisissent de ces futurs, plutôt que de les subir. Alors, le point 5, c'est un renversement d'une démarche qui aujourd'hui a un succès médiatique certain, qui est du collapsologie, on peut dire effondrologie hein, en français, c'est-à-dire cette idée qu'on va vers un effondrement. Après avoir fait beaucoup de terrain pendant 10 ans, un peu partout, enfin un peu partout, en France, en Angleterre et au Brésil essentiellement, j'en suis venu à dire, c'est possible évidemment, donc je vais montrer comment je traite cette question de l'effondrement, mais on peut renverser la question, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pourquoi ça ne s'est pas déjà effondré. Est-ce que ça ne s'est pas déjà effondré d'ailleurs, d'une certaine manière on pourrait considérer qu'on est déjà complètement effondré ici, en fait. On n'a pas le recul quoi, pour s'en rendre compte, mais les historiens du futur disent qu'ils étaient complètement tombés dans un trou, ils passaient leur temps avec leur téléphone, machin, ils passaient 3 heures à killer des emails, enfin, un truc complètement effondrologique. Hein. L'effondrement, ce n'est pas forcément l'apocalypse avec le ciel qui devient tout noir, vous savez, et puis voilà, il y a des versions religieuses qui sont toujours engagées dans cette idée hein, d'eschatologie. Donc là, moi, je le prends à l'envers, je regarde des petits effondrements, ou des effondrements au pluriel, qui ont lieu tous les jours, et qui produisent un tas de choses. Par exemple, des processus de réparation, des formes de résilience, entre guillemets, terme que je laisse aux acteurs, des formes de préoccupation, de vigilance nouvelle, et des alternatives qui viennent remplacer, en fait, des choses qui s'avèrent effectivement problématiques. Et donc, le penser plutôt dans ce sens-là, ça permet d'éviter de simplement devenir relais, au fond, d'une certaine manière, d'un discours qui a sa puissance, hein, sa puissance d'expression. C'est une notion que j'avais mise en place, d'ailleurs, dans la balistique sociologique. À un moment donné, vous avez quelque chose qui a une puissance d'expression, ça ne sert à rien d'aller contre frontalement, parce que vous avez comme ça une force qui se déploie dans plusieurs mondes. Alors ensuite, un autre point qui est important, c'est comment penser les infrastructures. Alors ça va pas mal recouper aussi les questions d'énergie. Dans leur milieu, c'est un peu la nouvelle génération de travaux de terrain qu'on a ouvert après l'étude des grandes controverses. J'en donnerai un aperçu. Et puis, des propositions, puisque le livre signé avec Josquin de Baz, donc sur Au bord de l'irréversible, propose un concept qui est celui de contre-anthropocène. Faisant le pari qu'on n'est pas, nous, en tant que sociologues, habilité d'une certaine manière à dire si oui ou non il y a une nouvelle époque géologique qui a été créée par l'homme en 1850, en 1920 ou en 1945, voilà, avec des débats à n'en plus finir sur où ça commence, ça finit. Comme vous le savez, la Commission internationale de stratigraphie, donc les géologues qui étaient chargés d'examiner cette question de l'anthropocène, en fait, ont décidé de ne pas du tout suivre ce qu'ils ont appelé du bruit médiatique. Bon, on voit bien qu'il y a des jeux, mais des polémiques. Moi, mon rôle, ce n'est pas de plonger dans cette polémique, de dire que c'est des enfoirés au service de Total et de toutes les grandes sociétés pétrolières. C'est de dire qu'il y a une controverse, donc prudence. Et on a bien fait, parce que finalement, nous sommes dans le Méghalayen, du village de Meghalaya, dans le nord de l'Inde, dans lequel une stalagmite a servi de base pour former une borne à une époque qui dure 4500 ans et qui est donc la dernière époque de l'Holocène. C'est ça, officiellement, la décision de la commission stratigraphie. On en pense qu'on veut. On peut faire de la sociologie des sciences, c'est-à-dire comment ils ont fait ça. Précisément, ils voulaient se détacher de cette version très philosophico-eschatologique de l'Anthropocène. Donc, en créant le concept de contre-anthropocène, on était un peu visionnaire. On s'est dit, parce que, qu'il ait lieu ou pas, ce qui nous intéresse, c'est les stratégies développées par les acteurs pour renverser, pour faire bifurquer ce qui est attribué habituellement à l'Anthropocène, c'est-à-dire un marquage irréversible. Hein, des conditions de la vie sur Terre et à travers justement les couches géologiques, etc. Jusqu'à là, ça va. À la limite, c'est bon, j'ai fait le topo, on peut... Parce qu'après, le risque, c'est que je tombe dans les tiroirs, où j'ouvre des tiroirs avec des fonds. Vous prenez tout. Bon, j'avais prévu de revenir sur cette question quand même des lanceurs d'alerte, parce que c'est le point de départ. Et alors, ce qui est frappant dans cette question du point de départ, c'est qu'elle me revient en boomerang tout le temps. Quoi. C'est-à-dire que le nombre de sollicitations que j'ai sur les lanceurs d'alerte, c'est... Et surtout les journalistes qui, comme vous le savez, ont des mémoires colossales, d'érudits, qui vous disent « Mais alors c'est quoi un lanceur d'alerte ?» 20 ans après. Bon, 20 ans, 22 ans après. Je veux dire, mais déjà, ça a déjà été défini. Alors à chaque fois, vous avez un article qui vous réexplique ce que c'est que le lanceur d'alerte, et comme ils ont peu de place, vous dites « Ben non, il n'y a pas beaucoup de place pour avancer. » Parce que à chaque fois, vous devez redire en fait des choses... Vous voyez que c'est une histoire longue, mais c'est un beau cas, je trouve, à réfléchir pour les sociologies, parce que, d'une certaine manière, c'est un concept qui est vraiment né dans le laboratoire le jour de janvier 1996, suite à des querelles, à la fois internes et à la fois aussi de la part d'acteurs, notamment Henri Pezra, qui nous avait dit « on n'est quand même pas des prophètes de malheur », parce que c'était le terme officiel du projet qu'on portait. Les prophètes de malheur, c'était comme ça que c'était financé par le CNRS. Ça arrangeait tout le monde, c'est les prophètes de malheur, ceux qui annoncent le pire, etc. Et en fait, on trouvait que sur le terrain, les gens n'avaient pas des comportements et des logiques de prophètes de malheur. Ils étaient beaucoup plus dans le réel. Ils portaient des causes qui étaient difficiles de contester, notamment l'amiante. Et Henri Pezra, lors de l'entretien, m'a dit « Ouais, prophète de malheur, c'est quand même très péjoratif, quoi. » Bon, c'est tout. Et en rentrant au labo, je dis « Il faut arrêter, quoi. On ne va pas appeler ces gens-là des prophètes de malheur. Ça ne serait pas pragmatique, au sens où ça serait leur coller une étiquette. » C'est-à-dire, d'une certaine manière, surinterpréter la logique dans laquelle sont des gens qui, finalement, ne font pas du tout une prophétie de malheur, mais font plutôt un acte tourné vers autrui pour faire changer les choses. Et vous voyez que... Ce truc a eu une certaine destinée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des médiations sur lesquelles je pourrais m'attarder. Certains, vous les connaissez peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas cessé de défrayer la chronique, de certaine manière. Le dernier moment fort, ça a été la loi sur le secret des affaires, mise en place au pas de charge par le gouvernement Macron, avec une assemblée bien disciplinée, qui consiste à protéger un certain nombre d'éléments hein, du regard extérieur, que ce soit des journalistes, des associations ou quiconque. Dès lors que des enjeux, des intérêts commerciaux sont potentiellement menacés par la révélation des informations. Donc, si vous reprenez par exemple le cas du Mediator, qui a été un moment important, hein, Frachon, vous connaissez j'imagine, je ne vais pas le redécrire, où elle a quand même dû enquêter un petit peu en profondeur sur ce que fabriquaient les laboratoires Servier, pour les citer, autour de l'isomérine et tous les principes actifs du fameux Mediator qui était devenu un coupe-faim, alors qu'au départ ça devait être quand même un antidiabétique, vous ne pouvez plus le faire. Avec le secret des affaires, vous avez un blocage hein, dû au brevet, dû au droit de propriété, dû au secret, etc., etc. Et donc cette histoire continue à s'écrire avec des tensions, avec des reformulations. Aujourd'hui, c'est plutôt Transparency. Je viens d'avoir un débat avec Mme Meyer, qui est une des porte-paroles de Transparency International, en France et en Europe, où elle a redéfini le lanceur d'alerte comme un dénonciateur, alors que c'était tout à fait le contraire au début. Mais j'ai dit, c'est pas un problème. Histoire politique d'un concept, ça dépasse largement la vision académique qu'on en a donnée au départ. Donc l'idée, c'est, vous voyez, d'avoir une trajectoire. Donc finalement, la balistique s'applique à nos propres concepts, avec des moments forts. Des moments, alors Snowden, ça a été aussi évidemment un moment central, hein, là, au niveau géopolitique, hein, sur le basculement de ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, etc. L'affaire Deltour et LuxLeaks. Je suppose que vous avez à peu près tous en tête ce genre de figure, mais n'hésitez pas dans la discussion à revenir. Donc vous voyez que moi, je pars de là. Finalement, ce que j'ai fait ensuite, c'est essayer de voir l'ensemble des opérations critiques des controverses d'expertise, des formes de régulation, des conflits politiques engendrés par tous ces lancements d'alerte qui concernent, alors, par exemple, Linky. Alors Linky, c'est à mourir de rire, parce qu'au début, la première fois qu'on parle de Linky, j'étais avec un gars de Negawatt, que j'aime bien par ailleurs. Enfin, personnellement, je vote Negawatt, si vous voulez. Hein, voilà, on parle d'énergie. Hein. C'est vertueux, on ne fait pas de nucléaire, pas de pétrole, on fait du renouvelable, on a de l'efficience partout, et on est vertueux, et surtout, on baisse nos consommations. Donc, moi, en termes de valeur, le problème, c'est que je lui dis, ah ben, il y a une controverse sur Linky, comment vous allez faire ? Ah non, non, mais il ne faut pas parler de ça. Je commence à dire, non, ça, on ne peut pas en parler, parce que ça c'est pas possible. Quoi. Si les gens commencent à flipper avec des compteurs électriques, alors on ne va pas avancer. Quoi. Voilà. Que fait le sociologue dans ce genre de situation ? S'il est militant, évidemment, il va donc écarter Linky, ou il va prendre une position pour dire « il n'y a rien, circuler, c'est pas un problème, c'est un non-problème public », ou au contraire, il va le traiter en termes ben « voilà, c'est l'impact des réseaux sociaux, des croyances, voilà, c'est... vous avez mis dans la tête des gens que le compteur pouvait empêcher de dormir avec les ondes électromagnétiques. Puis d'autres arrivent, oui, c'est peut-être quand même un problème d'organisation du marché de l'électricité, non ? Pas simplement la question des ondes, c'est le monopole, ou c'est peut-être la surveillance des populations, ou c'est la gouvernementalité. C'est-à-dire comment vous mettez un compteur qui est supposé vous aider à piloter votre système énergétique, mais en même temps vous met sous surveillance, d'une certaine manière. Et donc on voit dans ces controverses, se déplacer les arguments, les acteurs, aussi monter à la surface un tas d'expériences, et parfois des alternatives possibles ou potentielles intéressantes. Par exemple, quelqu'un dit, pourquoi mettre un compteur intelligent sur une personne, sur une habitation, et pas au niveau, par exemple, d'un collectif ? Un quartier, une commune, une rue, un ensemble d'universités, je ne sais pas, où il n'y a pas forcément les personnes et leur type de consommation. Vous savez, dans les arguments sur Linky, vous avez, oui, alors si vous regardez la télé la nuit et vous vous endormez devant votre télé, ils vont le voir, quoi. Enfin, en gros, c'est le genre de truc, quoi. Avec des données qui partent sur le web et avec toujours l'incertitude sur qui va utiliser ces données. Hein, parce que vous signez toutes les chartes que vous voulez, faire OK, je vous fais confiance. On a bien vu quand même, on ne cesse de voir tous les jours qu'il y a quand même des problèmes dans la boucle. Il faut des surveillants, il faut des contre-pouvoirs, etc. Et finalement, l'idée qu'on pourrait avoir la même chose, mais à un niveau plus mésologique, ça n'avait pas effleuré, évidemment, les porteurs du compteur en question. Parce que vous voyez bien qu'il y a un modèle politique qui est quand même radicalement différent. Vous n'avez pas du tout la même conception de l'individu et de la société dans le cas où vous avez un compteur qui est plus collectif, on va dire. Ça, c'est intéressant parce que toutes ces controverses font apparaître ça. Bon, les pesticides, évidemment, ça va être un levier pour faire apparaître des alternatives agricoles. Le nucléaire, c'est un levier magnifique pour faire apparaître des alternatives énergétiques. je vais vite. Etc. Donc, toutes les controverses vont, en fait, à la fois cristalliser des oppositions, faire apparaître des résistances, des refus, sur lequel très souvent les sciences sociales insistent, parce qu'on est souvent dans une analyse de représentation, je vais y revenir, mais en même temps, des mondes possibles qui émergent et qui sont portés par les acteurs, le plus évident étant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a été d'une certaine manière une réussite, même si la fin a été un petit peu gâchée, on va dire, d'un point de vue politique. Il y a bien cette construction qui, en plus, fait des petits. Hein, on va retrouver des arbres un peu partout. Alors, une des propriétés, je vais passer vite là-dessus, sinon je ne vais vraiment pas arriver à la fin, de tous ces objets, je passe le slide pour ne pas lire, sinon j'en ai pour deux heures, c'est une forme de criticité, au sens très proche, au fond, de la réaction en chaîne, telle qu'on peut la concevoir. C'est-à-dire qu'au fond, quand des acteurs entrent dans un processus critique, une de leurs caractéristiques, c'est qu'il y a des effets rebonds, des dérivations, des enchaînements qui n'étaient pas anticipés. Et donc, ce qui est intéressant dans ces processus, qui sont du coup des processus longs en général, c'est que vous avez toujours des effets non anticipés qui viennent compliquer la gouvernance des controverses ou des conflits, et qui fait que les pouvoirs ou les personnes en responsabilité, comme on dit de manière dans un langage plus posé, ne parviennent pas à arrêter facilement sur un compromis, sur un accord, sur une décision, parce que vous avez des relances dans tous les sens, parce que les acteurs viennent associer en fait à la controverse un tas de préoccupations. Et c'est tout un débat en fait de savoir ce qu'on peut associer ou pas. Si vous prenez le cas des abeilles, etc., et des apiculteurs, très rapidement, vous avez tout un tas de choses qui viennent s'associer à la question, en l'occurrence des néonicotinoïdes, qui sont devenus à un moment donné le centre du débat, mais il y a plein d'autres problèmes liés, les pratiques agricoles, la présence d'autres formes de polluants. Et très rapidement, en fait, le statut de l'abeille dans le paysage, à la fois du point de vue de la biodiversité et de l'agriculture, devient un problème qui amène plein d'acteurs et qui complique encore plus hein, la résolution des positions. Donc, on va le voir dans plein de cas. Vous voyez, ça, c'est une variante. Je peux en faire des dizaines de planches comme ça, en fait, c'est-à-dire où mes dossiers, ceux sur lesquels je vais travailler de manière durable, je vais les suivre à travers le temps, vont se télescoper et parfois prendre le dessus. Alors, les abattoirs peuvent à un moment donné être le sujet qui va devenir central, mais vous voyez que des abattoirs, vous arrivez à la question de la viande et de l'alimentation, et donc aussi du type d'agriculture, la place de l'élevage, évidemment, le bilan carbone de tout ça, et donc vous passez au climat sans trop de difficultés. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de circulation et d'interdépendance entre les controverses qui est assez remarquable. Et c'est peut-être ce qui... Le dernier bouquin, si on oublie celui qui est au milieu, l'a argumenté dans un champ de force, c'est qu'il le caractérise par rapport au son précurseur. Bon, il y a quand même 20 ans qui les séparent, à part ça, donc on a vieilli, enfin j'ai vieilli, on a tous vieilli. C'est que aujourd'hui, les controverses et les alertes sont beaucoup plus interconnectées et interdépendantes qu'elles ne l'étaient, où on avait un traitement, on va dire, cas par cas. Vous ne passiez pas facilement de la vache folle à l'amiante. On peut dire qu'il y a des liens, mais ce n'était pas quelque chose qui se faisait avec la même évidence qu'aujourd'hui, où vous allez très rapidement avoir une dimension systémique, qui est une dimension que les acteurs eux-mêmes vont mettre sur la table en permanence. Ce qui, évidemment, rend beaucoup plus compliqué à la fois les formes de politique, puisque gouverner du systémique, c'est bien plus dur que d'avoir des cibles bien séparées, avec une administration spécialisée qui traite cas par cas. On va y revenir, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté au niveau de l'Agence européenne pour l'environnement. Comment gouverner un monde dont les risques sont devenus systémiques, selon les acteurs eux-mêmes. Et en même temps, ça veut dire que la description, l'analyse sociologique de ces figures va exiger en fait une plateforme méthodologique encore plus lourde que celle qu'on avait avant. Vraiment, on prenait un cas, on le déroulait, on analysait des séquences. Aujourd'hui, on va croiser au milieu, on va voir... Par exemple, si l'argument climatique arrive dans le débat sur le nucléaire, vous êtes obligé de savoir des choses sur ce qui se passe autour du climat. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas uniquement traiter le nucléaire et le climat comme une espèce de variable supplémentaire. Ça devient très déterminant à certains moments. Et donc vous êtes obligé de vous distribuer comme ça dans un nombre de sphères incroyables. Donc voilà, ça caractérise, c'est pour vous donner simplement une idée du landscape sous-jacent du... et de la fatigue qui va avec. Parce qu'il y a des moments où on a envie de dire aux acteurs, les gars, on s'arrête, c'est bon. Plus d'infos, plus de rapports, plus de débats. On fait une pause, on prend un an, on réfléchit sur tout ce qui a été fait avant et on repart. Quoi. Mais non, malheureusement, tout ça ne cesse de s'imbriquer, de bouger en permanence. Sans compter qu'il y a de nouvelles choses qui émergent et des vieux risques, des vieilles questions qui ressurgissent. Alors, par exemple, des inondations ou des incendies, classique. Enfin, Claude Gilbert, 1980, quoi. Mais non, aujourd'hui, c'est hyper connecté à la question de la vulnérabilité par rapport à la préparation aux événements extrêmes liés au changement écologique et climatique. Et vous avez comme ça une espèce de, vous voyez, de renforcement, de processus auto-renforcé. Tout ça m'amène, ça c'est encore un blabla important, mais tout ça vous le trouverez dans des textes en ligne ou dans le bouquin. Je mets pratiquement tout en ligne, sauf les bouquins, parce que par respect pour les éditeurs. Mais en gros, il s'agit vraiment d'essayer de tirer profit de ce chaos apparent, plutôt que au fond d'en faire une espèce de tableau un peu pessimiste ou littéraire. Hein. J'avais dans le deuxième le bouquin de 2011, c'est Salman Rushdie, hein, l'exergue. Salman Rushdie qui dit « Si quelqu'un vous dit que ce monde est en ordre, qu'il y a un principe d'ordre, foutez-le à l'asile tout de suite. » En gros, c'est la citation, je la résume. Je trouvais ça assez joli. Quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas moyen... de stabiliser une représentation du monde durable quels que soient au fond les efforts qui ont été faits par les uns, la société en réseau, le nouvel esprit du capitalisme, les formes de résonance, alors c'est le dernier Rosa, je ne sais pas quoi, les sphères de Sloterdijk, la société du spectacle, vous voyez, cette espèce de tentative de totaliser l'ensemble des phénomènes sous un concept. Il me semble qu'aujourd'hui, on est obligé, au fond, d'adopter cette démarche pragmatique. Alors, c'est peut-être pour ça que vous y arrivez, hein, c'est drôle, on verra dans la discussion. Parce qu'au fond, selon le point d'entrée qu'on a, on va avoir des contraintes de description et d'analyse beaucoup plus compliquées que simplement appliquer une théorie. Alors évidemment, la version néo-marxiste du néolibéralisme qui arrache tout, qui emporte tout. Évidemment, en tant que citoyen, il y a des jours, je suis fatigué, je dis « ouais, c'est ça en fait ». C'est ça. Monsieur Laval, Monsieur Dardot, vous avez raison. Oui, ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que dès qu'on fait l'enquête, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on n'a pas un principe explicatif unique. Donc, partir d'un axiome d'indétermination et de contingence, c'est propre à plein de démarches, hein, pas simplement au pragmatisme. Ça a été le cas de la microstoria, par exemple, en histoire. Ça a été le cas de l'ethnométhodologie. Ça a été le cas, d'une certaine manière, de l'école de Chicago, quand elle s'est réattaquée à la question urbaine dès les années 30. Y a beaucoup de courants intellectuels comme ça qui ont fait ce pari qu'on pouvait mieux saisir les choses en les prenant dans leur mouvement, in the making, ce qui est un des mots d'ordre aussi du pragmatisme, en train de se faire, que Bruno Latour a beaucoup utilisé aussi, sans avoir d'emblée en fait un système pour caractériser au fond des fonctions, etc. Et du coup les dysfonctionnements qui vont avec. Je ne présente plus les différentes versions de la controverse, parce que vous avez beaucoup de sociologie des controverses aujourd'hui. Vous avez la version Sciences Po, ils viennent de m'inviter à un séminaire, je ne veux pas dire de mal, en plus c'est filmé. La carto, quoi, vous faites de la cartographie de controverse, ça m'a toujours fait un peu rire, parce que pour moi, une controverse, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense qu'un truc qu'on pourrait comme ça cartographier sur des réseaux, mais de thèmes. Mais c'est un débat qu'on a avec les gens qui sont là-bas, qui sont des gens intéressants. Je regardais ce qu'il y a après, là, parce que je n'en ai pas trop traîné. Et en fait, ce qui est intéressant dans les controverses, c'est qu'on a d'abord des changements de régime, où les acteurs sont amenés dans des situations qu'ils n'avaient pas forcément anticipées, et doivent d'une certaine manière faire preuve d'une créativité, soit défensive. Il y a un très beau texte d'un collègue linguiste qui m'a beaucoup marqué, moi, qui s'appelle « L'invention défensive », qui est en fait sur une relecture de plusieurs millénaires de rhétorique. C'est Sébastien McEvoy, qui est un spécialiste de littérature. C'est-à-dire que quand vous êtes accusé, vous avez besoin d'aller chercher des ressources. Alors, vous pouvez avoir déjà vous préparé, hein, le matin, vous arrivez, qu'est-ce qu'on va pouvoir me reprocher aujourd'hui à l'université ? Vous avez préparé vos arguments. En fait, c'est évidemment pas ce que vous avez préparé, comment vous mettre sur la table. Donc, il y a une part d'invention, d'inventivité, et dès les rhétoriciens grecs, à l'origine, l'invention, hein, c'est constitutif, en fait, de tout processus de dispute, etc. Donc, la critique, pour moi, c'est pas des régimes, des boîtes dans lesquelles sauteraient les acteurs, c'est un processus dans lequel l'invention argumentative va fonctionner, et ça va, là, c'est une modélisation qui vaut ce qu'elle vaut. À un moment donné, il faut rassembler tout ça dans un truc. Vous avez vu l'ensemble des quatre figures que j'ai à traiter. Il va y avoir une dimension d'intensité. Vous allez pouvoir avoir une critique extrêmement intense parce qu'elle va engager à fond ce qu'il apporte et ce qu'elle vise. Si vous vous enchaînez, évidemment, devant l'Agence française du sang, en l'occurrence, au début des années 90, en pleine affaire du sida, vous avez une certaine intensité. On peut montrer des exemples de ça. Ou si vous entrez dans un abattoir, si vous avez L214 qui déboule, ou une fémène au milieu du défilé du 11 novembre, vous voyez, l'intensité, ça prend une forme quand même très phénoménale. Et puis une extension, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui vont tomber sous la critique. Vous pouvez, au fond, viser simplement un aspect. On pourrait dire, par exemple, dans mon exposé, là, c'est sympa, c'est pas mal, mais vous n'avez quand même pas défini ce que vous entendez par pragmatique, par exemple. Donc, c'est par exemple, mais tout ce qu'il raconte, c'est absolument n'importe quoi. Vous voyez, donc l'extension de la critique va changer d'échelle. Et donc, en faisant varier l'intensité et l'extension, on observe, en fait, la plupart des phénomènes qu'on a dans nos trucs rentrent assez bien. puisqu'on va avoir des cas, donc on va partir d'une situation d'indifférence. On vous parle d'un truc, voilà. Alors, pour différentes raisons. Après, ça peut être, vous n'avez aucun intérêt dans le jeu. Vous êtes totalement ignorant de la question, vous êtes fatigué. Vous avez des conflits d'intérêts, donc vous n'allez pas en parler parce que votre époux, votre épouse travaille précisément chez EDF. Enfin, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Ou dans un grand laboratoire pharmaceutique. C'est arrivé à des ministres, alors bon, ça peut arriver à tout le monde. Donc vous êtes indifférent au sens, voilà, vous ne mêlez pas de l'affaire. Et puis vous pouvez avoir ce déploiement des différentes modalités. Alors là, ça, c'est une figuration qui est intéressante parce que ça renvoie aussi à pas mal de moments de la sociologie qui sont malheureusement parfois un peu dissociés les uns des autres, c'est-à-dire qui sont trop mis dans des boîtes séparées, je trouve. Par exemple, le fameux naming, claiming, blaming, tout le monde connaît ce truc, qui est le fameux disputing process d'une tradition sociologique américaine des années 80, où l'enjeu, c'est quand vous avez un sentiment d'injustice ou quand il se passe quelque chose, pour comprendre comment une dispute naît, il y a le moment où vous nommez les choses, le moment où vous faites votre claim, vous dites, voilà, je ne suis pas d'accord. Là, vous avez augmenté un tel et pas moi, donc franchement, je ne vois pas les raisons. Et le blaming, c'est-à-dire le moment où il y a une sanction ou une réparation. Et donc cette idée qu'il y aurait comme ça un processus ternaire. Ce moment-là, ça correspond assez bien à une des figures pour moi dans mon schéma, qui est l'accusation ciblée, quand vous êtes capable de définir une cible et de porter l'accusation sur cette cible. Ça va moins bien marcher si vous êtes dans la critique radicale sans alternative du système capitaliste, par exemple. En disant, de toute façon, c'est foutu, ce système est autodestructeur, il n'y a pas d'issue, soit on en profite et après moi le déluge, soit le nihilisme, et très rapidement d'ailleurs ça peut basculer comme vous voyez, puisque j'ai aussi introduit le cynisme dans le schéma qui existe dans nos cas, c'est-à-dire où des gens au fond, y compris certains ingénieurs, quand on les interviewe, qu'on voit au fond, qui commencent à dire « ouais, bon, de toute façon, on contrôle de moins en moins, quoi ». Mais bon, voilà, c'est la vie. Vous faites quoi avec ça quand vous êtes dans un entretien? Vous n'avez pas des arguments au sens classique du terme. C'est des gens qui vous renvoient une attitude qui consiste à dire « En fait, je suis en train de débrancher parce que j'ai tout essayé et je n'ai pas de solution. » Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, évidemment, vous voyez, on a mis des boucles de retour, la réversibilité, quand on parle d'irréversible, c'est au bord de l'irréversible, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore redescendre d'une certaine manière quand on est allé au maximum de tension. Imaginez, vous êtes technicien dans le nucléaire. Je prends un exemple que je connais un peu, d'autres connaissent ici. Vous faites une critique technique en disant « Non, mais là, il y a un problème sur les cuves de réacteur, quoi. On ne peut pas faire ça, etc. » Évidemment, on ne vous écoute pas, donc vous allez passer dans la critique procédurale en disant « Il faudrait quand même organiser la discussion sur ces problèmes techniques, c'est pas possible, on va dans le crash. » Vous vous adressez à l'autorité de sûreté nucléaire, qui vient d'ailleurs de mettre en place une plateforme pour les lanceurs d'alerte. Vous voyez comme quoi on est rattrapé par les choses, hein. Donc l'autorité de sûreté nucléaire a mis en place une plateforme qui va permettre aux agents les plus anonymes, entre guillemets, du système nucléaire, d'envoyer des messages disant « là, il y a tel ou tel problème ». En général, les problèmes, c'est des fraudes ou c'est des non-respects des spécifications de sécurité pour rendre possible justement la vigilance du système sur lui-même. Donc, vous voyez, tout ça est de bon sens. Hein. C'est une proposition qu'il ne faut pas fétichisé, mais qui permet de penser à la critique en mouvement et en déplacement plutôt que juste comme une attitude qui serait, bon, pendant très longtemps dans la tradition intellectuelle, liée justement aux Lumières, liée à la philosophie, à Kant en particulier. La critique, hein, c'est vraiment la position de jugement de celui qui est doté de compétences pour critiquer. Et Boltanski l'a récupéré finalement dans sa définition de l'acteur critique, puisque ce qu'il fait, au fond, il met Kant dans la tête d'à peu près tout le monde. Qui est généreux, hein, c'est un démocrate. Enfin, je crois. Enfin, j'ai pas lu le dernier livre. Mais c'est-à-dire qu'au fond, on a tous les compétences critiques héritées de cette histoire longue, histoire politique. Hein, c'était ça le message. C'était quand même déjà. Moi, j'ai trouvé que c'était un point de vue épistémologique, mais aussi des points de vue axiologiques. C'était une révolution intéressante. D'ailleurs, j'y ai participé. Mais à un moment donné, il faut redéployer les choses pour éviter que ça soit simplement un intellectualisme qui dise pas son nom. C'est-à-dire. Moi, intellectuel de surplomb, qui prétend ne pas être de surplomb, je trouve dans la tête des gens ce que je lis en bibliothèque. Ben moi, quand je vais sur le terrain, il y a des choses dans la tête des gens qui s'expriment, qui ressemblent à ce que je lis en bibliothèque. Ils ont du Rousseau, ils ont du machin, etc. mais en même temps, d'autres choses que je n'avais pas anticipées, qui sont leur forme de vie, leurs expériences, leur singularité, leur bizarrerie, leurs constructions, qui ne sont pas forcément anticipées par les grands textes de philosophie politique, ou de philosophie cognitive, ou morale. Et ça me situe aussi, alors c'est un débat que j'ai avec Frédéric Vandenberg, comme j'ai vu que vous l'aviez invité, il faut en profiter, puisque Frédéric, vous savez, s'est lancé dans une grande aventure avec Alain Caillé qui veut réunifier toutes les bonnes sciences sociales. En disant actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation entre ce qu'il appelle les studies, les études, alors gender studies, cultural studies, postcolonial studies, science studies, environmental studies, technical studies. Et alors, il dit, le problème, c'est que ces studies-là envahissent en fait tous les départements et les librairies et les publics. Et on n'a plus du tout le noyau disciplinaire classique. C'est pas une alerte encore. La philosophie morale, qui est aujourd'hui absolument incontournable, puisque redonner du sens, c'est un des enjeux qui s'est donné avec Alain Caillé, en particulier autour du mouvement du Boss. Et donc il faut bien réfléchir à la notion de vérité, d'authenticité, de générosité, de réciprocité. Et puis, les disciplines de sciences sociales qui sont aujourd'hui éclatées en théorie sociale, qui ont du mal à communiquer. Donc il faut une métathéorie sociale fondée sur une philosophie morale qui, évidemment, vous l'avez deviné, celle de Marcel Mauss, le don. Ça, avec Caillé, c'était un peu inévitable. Tout ça pour réunifier les études de terrain, les studies, sous un ensemble de concepts partagés. Et je trouve cette entreprise très intéressante. À part que je vois mal comment on peut la faire tenir dans la durée si on n'a pas en même temps le processus bottom-up de renversement possible de cette construction par l'interaction avec l'expérience des acteurs qui peuvent nous apprendre des choses sur des formes de vie qu'on n'a même pas imaginées, des stratégies qu'on n'a pas imaginées, des alternatives qu'on n'a pas imaginées, etc. Voilà, ça c'était un peu le préambule, c'était un peu lourd. Il y a ce machin qui vient après, mais ça je le garde pour la discussion, vous verrez. C'est au fond une réponse à Nathalie Hénik, bon, coucou, puisque c'est filmé. Elle a aucune chance, il n'y a aucune chance qui la regarde. Mais c'est-à-dire cette idée qu'il faut appliquer le principe de neutralité axiologique qu'elle attribue à Max Weber avec d'autres, alors que quand on lit bien Le Savant et le Politique ou d'autres textes, c'est pas aussi clair que ça du tout. Cette idée que c'est pas un problème de neutralité axiologique, c'est un problème d'explicitation du chemin d'enquête et de la manière dont l'enquête interagit avec différentes instances, des publics, des autorités, des pairs, des collègues. Et c'est dans ces échanges-là, au fond, que se fait la possibilité d'une interobjectivation plutôt que d'une attitude, en fait, qui serait une attitude de neutralité que le sociologue pourrait trouver parce qu'il a comme ça un éthos mertonien, etc., qui éviterait les dérives militantes qui, visiblement, le danger de la sociologie. Enfin, je l'ai fait vite. Hein. Vous avez tous entendu parler d'un livre qui s'appelle Le danger sociologique. Si ce n'est pas de la provocation. C'est quand même assez rare qu'un sociologue mette lui-même sa discipline en tension, en s'adressant à un public externe, finalement, en qualifiant lui-même sa discipline de danger. Enfin, il y a un truc là qui, moi, m'échappe. Donc là, le schéma précédent, c'est une réponse, mais je ne voulais pas le faire trop vite. J'aurais dû le mettre à la fin du. Alors. Sur le pragmatisme, pourquoi au fond cette revendication de pragmatisme? Ça va là, c'est bon, ou je vous ai déjà saoulé? Parce que faut parfois ma. J'ai beau vieillir, en fait, ça ne s'arrange pas. Hein. Bon, pragmatisme, bon, les pères fondateurs, vous savez qu'il y a une revue qui a été créée qui s'appelle Pragmata, qui est créée notamment par Antoine Aignan, que des gens que j'aime bien, Joël Zask. Daniel Sefai, tant pis pour. Je m'excuse pour les autres, je ne vais pas faire la liste. Moi, dans le pragmatisme, ce n'est pas tellement l'herméneutique des textes fondateurs qui va m'intéresser, même si je les ai toujours à portée de main, notamment les grands textes de John Dewey sur les problèmes publics, sur la reconstruction, sur évidemment l'enquête, etc., ou les textes de James qui sont fascinants. C'est, au fond, quels sont les piliers ou les maximes qui vont me servir de guide quand je dois faire des choix à l'intersection de l'épistémologie et de l'axiologie. C'est-à-dire, au fond, où je suis dans des choix de connaissances et en même temps où je sais que ça a des conséquences en termes de valeur sur ce que je vais représenter ou pas dans mes travaux sociologiques. Sachant que c'est toujours un enjeu. Et c'est pour ceux qui doutent de cet enjeu-là, relisez l'introduction d'Homo Academicus de Pierre Bourdieu, où le premier chapitre s'appelle « Un livre à brûler ?» pour l'interrogation. On peut dire que c'est une figure de rhétorique. Un professeur au Collège de France qui fait un livre et qui commence par en disant « Faut-il brûler ce livre que je suis en train de publier ?» Ça fait rire tout le monde. N'empêche, non. Il fait une objectivation du milieu intellectuel dans lequel il y a la plupart de ses collègues au Collège de France. Mais il se pose la question, au fond, quelle est la vertu heuristique ou cognitive de cette opération, et en même temps, quelles sont les conséquences éthico-morales, quoi. Est-ce que, du coup, ils vont me regarder différemment, ou est-ce que je vais les regarder différemment parce que je les ai mis sur un plan factoriel, par exemple. Quand je croise Lévi-Strauss, je ne le vois plus de la même manière. Ou est-ce que, finalement, on peut faire des actes de connaissance comme ça, sans aucune réflexivité sur les effets moraux, éthiques et politiques, hein, de nos représentations. Donc dans le pragmatisme, moi je trouve pas des réponses, mais des appuis dans le fait qu'il faut systématiquement donner une place centrale à l'expérience. C'est une des... au fond, le réel est ce qui résiste dans l'expérience, par exemple, c'est une des formules de William James. Il faut passer par l'expérience. Ça veut dire que faire l'expérience, ça peut être bien. Par exemple, faire l'expérience de s'engager dans une association pour faire bouger les lignes d'une controverse, ce qu'on a fait avec Josquin à un moment donné, je vous expliquerai dans la discussion pourquoi, ça apprend des choses. Donc l'expérience va devenir ensemble. L'action, alors vous allez me dire l'expérience et l'action, parce que l'action, c'est déjà orienté. L'expérience, c'est pas forcément orienté. Il faut faire l'expérience de l'attente, de la solitude, de l'ennui, c'est pas forcément orienté. Il y a une espèce de primat de l'expérience, si vous voulez. L'action, ça organise le monde, ça définit des fins, etc. Le conséquentialisme, bon, ça c'est assez classique, le pragmatisme se détache d'autres formes de philosophie par une conception conséquentialiste du raisonnement. C'est, vous savez, la fameuse formule de Peirce, au fond, quelle différence ça produit? Et quelque chose a d'autant plus d'intérêt que ça produit des différences dans l'appréhension du monde, dans les séquences suivantes, etc., etc. Le raisonnement inductif, alors c'est un peu plus technique, mais pour moi, c'était important de passer par là. C'est-à-dire qu'au fond, on a très souvent construit les choses dans une opposition entre déduction et induction. Bon, c'est basique et c'est important de le faire. Il se trouve qu'il y a un troisième terme que Peirce essaye de pousser dans ses textes, ses premiers textes fondateurs du pragmatisme, qui sont assez tordus en anglais à lire, mais bon, on y arrive. Où en gros, il dit, il y a possibilité d'une forme de raisonnement dans lequel ce qui est posé comme prémisse ou comme règle peut être transformé chemin faisant. C'est-à-dire, par exemple, une question peut surgir au milieu d'un raisonnement et obliger à repenser le système de règles. Vous n'avez pas simplement un déroulement monotone d'un raisonnement, ou inversement, induction, c'est-à-dire, tiens, j'ai observé qu'à Caen, ils sont vachement silencieux, ils sont vachement concentrés quand on leur parle, donc j'en déduis que dans les universités en région, les gens sont vachement sérieux. Donc, dans les deux formes de raisonnement, il y a des problèmes. La déduction suppose d'avoir un système formel préalable, on n'en a pas toujours. Et dans l'induction, évidemment, c'est que je vais généraliser sans trop savoir où je vais. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est complètement local ici. C'est une ethno-méthode que vous avez, vous partagez plus ou moins, ou alors c'est après-repas, je ne sais pas. Voilà, donc des raisons locales que j'aurais tendance à monter. Dans l'abduction, vous allez pouvoir réarticuler en fait ce jeu entre le général et le particulier, entre ce qui est sur quoi je peux m'appuyer et sur quoi je dois douter. Par exemple, dans le modus ponens, la déduction classique, vous avez le fameux théorème qui sert souvent d'exemple pour les premiers cours de logique. Tous les hommes sont mortels. Je suis un homme, donc je suis mortel. Et maintenant, si je vous dis non, parce que moi je suis transhumaniste, je le fais exprès. Transhumaniste, ça veut dire que moi, pas forcément mortel. Parce que je suis déjà en train de développer des stratégies, etc. Ouais, non, mais attendez, là, Et donc, le débat se reporte sur la définition de la mortalité, et est-ce que effectivement, elle est redéfinie par un objet qui n'était pas pris en compte dans le système, vous voyez, etc. Donc, l'abduction a cet avantage de représenter dans les formes de logique Ces moments, alors qu'ils ne sont pas heureusement tous les jours, parce que ça serait intenable un monde dans lequel on pourrait remettre en question la plupart des axiomes sur lesquels nous fonctionnons, c'est-à-dire le sens commun serait deviendrait impossible. Mais quand même, on est peut-être dans un monde qui se rapproche d'un état où on ne sait plus quoi c'est un gilet jaune, c'est quoi finalement. Voilà, on sait plus. Essayez de me définir l'état logique. C'est la peste brune. C'est le résultat de politiques néolibérales depuis 30 ans. Enfin, vous allez avoir une pluralité de versions qui vont vous obliger à réinterroger, au fond, le cadre dans lequel vous pouvez penser quelque chose. Vous voyez, la panique dans laquelle se retrouvent des gens, quand même, qui ont fait des études supérieures, qui sont des élites, qui ont des think tanks à leur service, et qui sont face à des processus qui réinterrogent, sans qu'on puisse savoir s'il faut généraliser. Est-ce que c'est le peuple français qui soulève ? Alors, ça, c'est Mélenchon, c'est la version... c'est intéressant, parce que l'abduction, bon là, je le fais avec des images, mais moi j'ai trouvé dans cette réflexion sur la logique, donc du coup, entrer dans une logique non monotone, au sens de monotonie, au sens logique, on peut aussi y avoir Verlaine, mais c'est non monotone en logique, ça veut dire que des prémices sont remises en cause chemin faisant. C'est-à-dire que vous vous dites, effectivement, tous les hommes ne sont pas mortels, tout à coup. Ou en tout cas, on ne peut plus dire avec certitude que tous les hommes sont mortels. Par exemple, vous mettez un quantificateur, certains tendent vers l'immortalité. Par exemple. Processus collectif d'enquête, c'est l'autre support qui est absolument porté par cette idée. Je trouve que la philosophie pragmatiste a vraiment mis en évidence, et Dewey en particulier, mais Mead aussi dans sa manière, et toute l'école de Chicago derrière. C'est-à-dire qu'au fond, nos acteurs font des enquêtes. On n'est pas les seuls à faire des enquêtes. Alors, on va dire, c'est pas complètement nouveau. L'ethnométhodologie l'avait beaucoup mis en évidence. Les premiers sociologues, ce sont les gens ordinaires. Mais là, il s'agit véritablement de prendre au sérieux les processus d'enquête que lancent les acteurs. Par exemple, vous avez un petit groupe anti-Linky qui se crée dans mon village. C'est vrai, en plus, c'est même pas une blague. Bah, ils commencent à partager des infos. Alors, bon, on va dire, bah ouais, mais c'est le monde en réseau, parce qu'avec l'Internet, aujourd'hui, on peut... Oui, mais ça rend visible, en fait, un processus qui était déjà... tacitement à l'œuvre dans plein de situations, où un processus d'enquête prend forme. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de le regarder sous cet angle-là que de dire que c'est des croyances populaires ou des erreurs épistémiques, parce qu'ils ne connaissent rien. Nous, ingénieurs ou start-upistes super avancés, on va leur dire la vérité de ce que c'est que ce compteur. Donc prendre au sérieux les formes de connaissances en train de se fabriquer, quelle que soit la source de ces connaissances, dans un premier temps, c'est une démarche saine. Sur les médecines alternatives, je n'ai pas forcément d'avis tous les jours, j'en sais rien. Vous avez quelqu'un qui arrive avec un cancer, avec déjà des métastases, qui est au carrefour de plusieurs propositions, vous tranchez, ou vous laissez ouvert. Enfin, ce n'est pas évident. Vous voyez, c'est des questions vraiment pratiques. Hein. Tout ça, c'est lié dans pragmata, pragmatisme. On est... La démocratie, évidemment, va suivre après derrière, parce que, au fond, ce que montre bien Dewey, c'est que, à travers ces processus d'enquête, ce sont des publics qui se créent. Donc, on n'a pas le citoyen, la société, les gens, enfin, tout ce que vous voulez, etc. On a des publics, pluralité. Ça, Daniel Seffay a suffisamment écrit là-dessus, je vous renvoie à ses œuvres complètes. Cette idée que chaque cause, chaque processus critique, hein, moi je vais avoir des processus critiques, où il y a des publics qui se créent. Alors c'est parfois les mêmes qu'on trouve dans plusieurs processus, mais pas toujours. Moi, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur la controverse des OGM, avec le passage Cérallini, mais Cérallini c'était qu'un épisode parmi des milliers d'autres, et notamment sur l'émergence du réseau semences paysannes, et de la manière dont des acteurs, tout à coup, un public particulier s'est créé autour de cette idée du partage des semences et d'une alternative complète à la manière de construire à la fois la production, la consommation et le rapport aux êtres, aux entités, et notamment à la fameuse biodiversité cultivée, qui est un slogan qui a émergé à ce moment-là. Donc les publics se créent avec les problèmes, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que... regardez. Enfin, le dernier, c'est le plus facile à admettre. C'est pour ça que je le mets en dernier. J'aurais peut-être dû le mettre en premier. C'est le pluralisme. Pas de doctrine. C'est-à-dire qu'au fond, si vous me dites, ouais, mais quand même, derrière tout ça, il y a des habitus. Je dis oui, très certainement, il y a des habitus. Simplement, je refuse d'enfermer la sociologie dont j'ai besoin dans une explication et une seule, qui serait l'explication ultime. J'ouvre toujours à une pluralité possible de chemins. Et selon les cas, certains chemins vont se révéler plus féconds, plus pertinents, plus profonds que d'autres. Et ce pluralisme-là, il n'est pas facile à tenir, en fait. Il faut avoir une bonne santé mentale. Parce que bon, en attendant, vous voulez des claques à ses concurrents, enfin, c'est normal. Si quelqu'un arrive avec une théorie du choix rationnel, et à un moment donné, il me dit, mais ton débat, là, avec un bon modèle multi-agent, etc., en économie, aujourd'hui, on te modélise ça, pof, c'est réglé en 3 jours. Peut-être qu'il peut... Sur certains cas, il a peut-être raison. Ils ont essayé sur le climat, avec le marché au carbone, etc. Donc on peut leur montrer des contre-exemples, mais peut-être qu'ils peuvent descendre en échelle. Hein. C'est ce que dit Dreyseck ou d'autres penseurs de ces questions-là. Vous mettez des mini-publics, par exemple, au lieu de vouloir mettre tout le monde autour de la table. C'était un peu la tendance, la tour, à un moment donné, on met tout le monde autour de la table, puis c'est plus gérable. C'est le paradoxe de Condorcet. Alors vous ramenez à des mini-publics, et les gens finissent par tomber d'accord, trouver des solutions, parce que justement, ils arrivent à hiérarchiser, à faire des options, comme on dit. Donc, pluralisme, en principe. Sur le conséquentialisme, juste un petit détail, parce qu'il faut le rappeler, il y a 2 formes de conséquentialisme. Il y a un conséquentialisme que j'appelle borné, de type 1, si vous préférez, pour éviter toute connotation qui pourrait être péjorative, et un conséquentialisme ouvert, de type 2. Le conséquentialisme borné, effectivement, c'est celui qu'on va vous opposer quand on va dire « Oui, mais avec un raisonnement conséquentialiste, alors, à ce rythme-là, on ne peut plus rien faire. » C'est le conséquentialisme qui est adapté au fait que vous avez, effectivement, un certain nombre d'éléments dont la relation a été établie. C'est vrai que 3 paquets de cigarettes par jour, normalement... Alors moi, c'est arrivé à une amie, hein, je prends souvent cet exemple, qui est toujours vivante, d'ailleurs... Parce que ça fait longtemps que je prends l'exemple. Mais elle a donc, depuis l'âge de 18 ans, fumé à peu près 3 paquets de Marlboro par jour. Je peux même faire de la pub pour Marlboro, parce que c'est des empoisonneurs, donc on peut le faire. Rien. Et puis, arrivée à 85 ans, elle a fait un petit AVC, quoi. Alors là, bon, mon chirurgien a dit, écoutez, madame, il serait peut-être temps d'arrêter de fumer. Elle a dit, mais là, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Alors, vous voyez, donc... Il n'y a pas de relation, même dans les cas où la relation est vraiment établie, les acteurs peuvent au fond ouvrir des possibles différents, faire des choix absolument, etc. Donc ça nous amène à la conséquence du type 2, c'est-à-dire que des choses totalement impensées, impensables, surprenantes, effectivement. Un prisonnier qui dit « mais je suis bien en prison, j'ai pas envie de sortir », ça arrive régulièrement par exemple, hein. Des choses comme ça quoi. Vous avez en fait des ouvertures qui n'étaient pas dans la liste que vous aviez figée. Et donc le rôle de la sociologie n'est pas évidemment de stabiliser définitivement les causalités. Et donc quand on dit conséquence, ne pas le rabattre en fait sur un système causal. Enfin vous voyez, c'est un peu toujours le même raisonnement finalement. Hein, pour s'ouvrir au contraire à l'espace des conséquences possibles que les acteurs vont mettre sur la table et voir comment ils vont les hiérarchiser, les vivre, les discuter, les oublier souvent. Etc. Bon, tout ça pour rappeler que c'est évidemment dès qu'on creuse dans la littérature, on trouve des textes qui nous aident d'abord à dire que c'est pas totalement nouveau, et ensuite que quel chemin est parcouru ou pas depuis ce fameux texte de Merton. J'ai découvert que Merton, on retombe dessus de plus en plus souvent en fait. Je sais pas pourquoi, c'est un truc. Il y a un retour de Merton. Bon, ça, c'est l'aspect, c'est un peu comme le tableau plus haut, un peu formel. Mais tout ça pour dire que dans la pragmatique de la justification de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, un des défauts logiques que je vois, ou métalogiques plutôt, c'est qu'ils ont récupéré, sans y vraiment réfléchir à l'époque, un mode de raisonnement qui est un mode de raisonnement totalement classique du point de vue logique. Si la situation est agencée de telle et telle manière, alors le principe de justification qui s'impose est celui-là. Et en même temps, je vais vous dire, les acteurs sont libres de choisir le principe de justification. Et moi, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait plus. Et que du coup, à force de voir des publis passer avec des cités, alors cités industrielles, cités domestiques, qui fonctionnaient comme des espèces de marques automatisées qui étaient censées décrire le processus, en fait, ça me... Donc il fallait passer à une forme beaucoup plus profonde de logique des transformations, c'est-à-dire comment en fait les prédicats, les opérations critiques créent des changements d'état dans la chaîne entre les hommes. Et donc vers une logique non monotone, et où les logiciens ont eux-mêmes fait pas mal de travaux. Hein. C'est pas uniquement en l'air tout ça. Hein. Il y a une grosse littérature. Bon. Tout ça, c'était pour dire que je ne suis pas le seul à dire que je ne fais pas semblant d'être complexe. Les choses sont complexes, donc on essaye d'y coller. Vous savez, un célèbre texte où Ostrom, Elinor, son collègue, essaye de dire, voilà, il faut s'atteler à réadapter nos outils aux ambitions que nous avons et aux complexités que nous avons en face de nous. Parce qu'on pourrait dire que c'est une forme, de théâtre, peut-être. On a vraiment des choses à écrire. Donc ça a donné ce schéma. Je pourrais m'arrêter là, en fait, aujourd'hui, qui est publié donc, dans Borg Irréversible. Le bouquin débouche pratiquement sur ce schéma, qui, pour nous, est intéressant parce qu'il fait appel à 6 formes de sociologie qu'on a réussi à faire travailler ensemble pour décrire nos cas, qui permettent, en fait, de comprendre de manière un peu systémique, justement, les circulations d'acteurs et les transformations. Et ça sur l'énergie, on va le refaire fonctionner. Enfin, on va voir si ça résiste, on va le faire bouger. Donc, au fond, vous avez une forme de sociologie qui est classique, qui est de déconstruire, analyser un discours dominant. Les injonctions sur l'énergie, on peut les prendre, mais on peut analyser tout ce qui se passe en termes de gouvernementalité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est du Foucault 2.0, 3.0. Vous avez en fait un discours dominant qui va mettre au pas l'ensemble des acteurs sur un certain nombre de nouvelles normes et de gouvernement. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en face, vous avez tous ceux qui vont au contraire porter plutôt les contre-discours, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en évidence les mouvements sociaux, les alternatives, les critiques. Et c'est assez rare de faire les deux en même temps, parce qu'en général, soit vous pensez que le discours dominant, c'est Capestre. On s'est bien engueulé avec Pestre. Hein. Je peux le redire à la télé, on s'est bien engueulé. Mais c'était pour le fun de la discussion. Vous pensez tellement que le discours dominant est dominant que finalement vous oubliez de donner des points, d'une certaine manière, au contre-discours, qui lui aussi régule les choses et finalement produit des choses. Avec cette zone intéressante qui est une zone de transaction, une trading zone, comme dirait Galison ou d'autres, où il y a des échanges entre les deux, c'est-à-dire par exemple le développement durable devient une mode de gouvernement officiel alors qu'au début c'était plutôt un appui critique, ou la biodiversité, ou voyez, ou la question des inégalités qui devient en fait un mode de gouvernement, etc. Donc vous avez en fait des échanges et cette zone-là est un observatoire intéressant quand vous regardez n'importe quel discours aujourd'hui dialectique. On pourrait en rester là, mais en fait, on a un autre étage qui alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est compliqué de savoir si c'est hiérarchique ou pas, donc on verra. C'est le moment procédural de l'action, qui aujourd'hui sature presque tout. On pourrait dire qu'au fond, ce qui compte, c'est les agences, c'est les expertises, c'est les procédures, c'est les règlements, c'est les comités, c'est la manière dont s'organisent collectivement les décisions... Et tous ces processus qui sont extrêmement chronophages. Et quand on décrit nos cas, on a des acteurs qui passent un nombre de temps en réunion, je sais pas, ne serait-ce qu'une CLI ou un CLIS autour d'une centrale nucléaire. C'est de la paperasse, c'est des réunions, c'est des normes, c'est des règlements, il faut rappeler la signification de tel règlement, de machin, etc., de telle règle de sûreté, de la mission, la compétence de X, la mission de X dans le cadre de la procédure, truc, etc. Alors, vous pouvez rentrer là-dedans. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été une gêne, ça m'est propre. Hein. J'ai des collègues qui sont très à l'aise là-dedans. Ils plongent là-dedans et ils te font des descriptions absolument incroyables. Moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'explose. Quoi. J'ai beaucoup travaillé pour l'ANSES, par exemple, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous, on essayait de leur parler de tout ça. Et eux, ils étaient là-dedans. Normal, ils ont des missions réglementaires. Ils ont des cadrages de leur domaine de compétences. Ils ont des objets qui arrivent, qui ont été redéfinis par des comités d'experts qui donnent des définitions, et tout le reste était rajouté à l'espèce d'impressionnisme sociologique, mais en même temps, ils se rendaient bien compte que leur truc ne marchait pas. Quoi. Donc ils étaient obligés de discuter avec l'extérieur, de l'externalité de leur procédural. Donc le monde procédural, on ne peut pas l'exclure dans notre description. Donc on a une sociologie procédurale. Je pense que Nicolas Daudier, aujourd'hui, est beaucoup dans cette approche-là. Tout ce qu'il fait sur les processus de réparation, dans le cadre notamment des tribunaux, sur autour des dispositifs, il a beaucoup écrit sur les questions de dispositifs, il va centrer cette idée et il va dire, évidemment, le dispositif est soumis à des évaluations, ce qu'il va appeler des régimes normatifs, enfin, je ne sais plus l'expression exacte, des ordres normatifs différents, qui va secouer un peu le dispositif. Vous allez contester la manière dont la procédure pénale a été suivie sur tel ou tel point, par exemple. Mais vous avez la procédure. L'autre sociologie, ben ça c'est la balistique. Vous voyez qu'en fait on est monté d'un cran dans le bouquin. C'est-à-dire le côté un peu tordu, chevelé des trajectoires. Combien de temps il faut pour arriver à faire prendre au sérieux le danger de l'amiante? Un siècle. Bon, là je reviens de Colombie. Ben non, c'est toujours pas fait. L'année dernière, une journaliste a été victime donc, du mésothélium. Elle a été très médiatisée, ça a été très dramatisé. Elle a monté une fondation, elle est décédée entre-temps. Son mari a porté ça, il y a des ONG qui sont venues. Ils étaient à deux pas d'obtenir du Parlement une loi anti-amiante. Et puis, il y a eu une alternance politique. Et puis, il y a eu du lobbying, comme on sait, dans ce genre de trucs. Et là, c'est reparti. L'amiante n'est toujours pas interdit. Est un quasi-problème public, mais pas véritablement abouti, en Colombie, encore aujourd'hui. On va retrouver, évidemment, des choses qu'on connaît, à savoir la puissance de frappe et d'influence de groupes industriels qui ont profité, il faut le dire, puisque dans ces films, c'est sûr, Eternit, notamment. J'aimerais bien qu'ils me poursuivent en justice un jour, je pourrais devenir célèbre, en fait. La guerre civile a été une bonne opération pour eux, parce qu'il y avait des zones qui étaient inaccessibles. Et donc... aller commencer à discuter des pollutions environnementales d'une mine ou d'une usine d'amiante, c'était hors champ. L'enjeu, c'était les FARC et la guerre civile. Donc il y a plein de situations comme ça qui permettent en fait Donc les causes, elles peuvent échouer, elles peuvent finir par trouver leur chemin pour arriver dans une case. C'est le problème du bisphénol, paf, tam, c'est codé, alors on va mettre perturbateur endocrinien. Donc ça... Et il y a surtout ces deux-là. Ces deux sociologies-là qui sont absolument centrales. C'est-à-dire que vous avez des milieux humains, des milieux habités, des milieux vécus. Certains tendent vers être une concentration autour d'une entité dominante, hégémonique, qui va configurer au fond le monde autour d'elle. Donc on a beaucoup travaillé sur les centrales nucléaires aussi pour ça. C'est de regarder comment, au fil du temps, en fait, l'hégémonie elle craque. Je prendrai un exemple rapidement tout à l'heure. Et en face, des milieux complètement hétérogènes. Alors on a à la fois l'école de Chicago, la Tour, on peut trouver plein de sociologies qui se sont inspirées de ce modèle. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une hétérogénéité d'acteurs, vous n'avez pas véritablement de centre de commandement, vous avez des réseaux, vous avez des circulations. Et par l'entremêlement de ces acteurs, vous avez émergence de nouveaux problèmes ou transformation des formes d'hégémonie. Et évidemment, rétroaction sur... Alors, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui ressemble à un système complexe, dynamique. Et bon, c'est pas qu'on soit content de notre truc, mais disons que ça nous a fait du bien, à un moment donné, d'arriver sur ce schéma, parce que à force d'avoir accumulé pendant 10 ans des enquêtes de plein de dossiers et d'avoir toutes ces sociologies dans nos bagages, on était content. Alors, juste un mot, mais là je vais accélérer sur ce point... Les systèmes complexes, hier, un de mes doctorants a soutenu sa thèse, qui est un vrai soulagement, donc je devrais être heureux, d'ailleurs je suis un peu souriant aujourd'hui, ça fait du bien quand une thèse est soutenue, c'est une thèse qui fait l'histoire et la sociologie des instituts de la complexité, depuis en gros les années 70 jusqu'à aujourd'hui, notamment le Santa Fe Institute et l'Institut des sciences de la complexité à Paris. Et il a examiné les bagarres, les controverses sur qu'est-ce que c'est que le complexe, les systèmes dynamiques, etc., etc. Et du coup, en fréquentant pas mal de gens, je me suis rendu compte que ce qu'on cherchait à décrire dans notre sociologie combinatoire, là, un peu bizarre, tiens, c'est la première fois que j'emploie ce terme de sociologie combinatoire, où je combine six sociologies, ben, ça ressemblait au fond un peu au système complexe tel que les développent certains, avec... Justement, un des problèmes du pragmatisme, une de ses limites fortes, c'est qu'il a du mal à penser les systèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas une pensée des systèmes, puisque du fait de tout ce que j'ai raconté avant, il y a de l'expérience, il y a de l'action, il y a des contextes, il y a tout ce que vous voulez. Mais le système, évidemment, on va dire c'est structuro-fonctionnaliste, c'est tout ce que vous voulez. Et donc les théories sur la complexité peuvent nous apporter des choses dès lors, au fond, qu'on va s'intéresser, c'est à ces questions d'échelle dans lesquelles les acteurs circulent. Puisqu'au fond, une des caractéristiques de toutes ces controverses, c'est les changements d'échelle continus qu'opèrent les acteurs. Des phénomènes locaux peuvent devenir pertinents au niveau global. Des enjeux mésologiques de régions, de villes, de réseaux, etc., peuvent devenir les transformateurs en fait, de liens. Par exemple, vous avez une région sans OGM, ça va produire des effets sur... Et donc, du coup, on a développé, on est en train de développer des travaux assez incongrus, je passe là-dessus, avec notamment David Chavalarias, qui est un mathématicien du CNRS, où on essaye d'associer ce qu'on a fait pendant 20 ans autour des logiciels Prospero et compagnie, en disant ça, c'est irréductible à toutes les mathématiques sociales et toutes les mathématiques de réseau qui existent. Et là, on fait un compromis énorme en disant au contraire, non, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut co-construire de nouveaux outils. Donc, pour moi, vous voyez, c'est un peu la démonstration, alors pas par l'absurde, mais par la démarche, c'est-à-dire qu'au fond, le pragmatisme, c'est ne pas s'interdire des expériences au nom d'une doctrine qui interdirait, de point de vue axiomatique, le truc. Alors, j'en viens à la question, parce que là, j'ai perdu le sens des flèches, comme dirait l'autre. Voilà, ça, on passe. Ce point-là, normalement, je l'avais déjà fait, je pense, il y a déjà... Alors, c'est il y a 6 ans, c'est ça ? Bon, plus ou moins, il a évolué. Ça, par exemple, c'est quelque chose... Il faudrait que j'aie la souris, mais... Oui, voilà. Qui est très lié à l'affaire Serralini. L'affaire Serralini, c'était un moment extrêmement violent dans l'histoire des OGM, où Gilles-Éric Serralini, que vous connaissez bien normalement, puisqu'il est quand même plutôt... pas le régional de l'étape, comme on dit, mais je sais pas, il y a une formule... avait fait cette expérience sur des rats avec le Monsanto 810, c'est ça, je ne me trompe pas, et du Roundup, et les avait nourris pendant 2 ans en dépassant toutes les normes, normalement des tests de toxicologie, et donc c'était fait, pris une violente attaque de toutes parts, comme en disant, ayant violé les règles élémentaires de la toxicologie réglementaire. Et ça a fait une polémique assez intéressante sur justement les limites de ce système réglementaire. Et ça avait remis la question de la santé des OGM sur le tapis au moment précis où il fallait valider des autorisations et où l'État français en a particulièrement profité puisqu'il a maintenu au fond le moratoire et d'une certaine manière continué à interdire les OGM, en tout cas comme première culture, puisque vous savez que ça arrive par le soja animal, enfin, dans la nourriture animale. Mais en tout cas, ça a été un moment fort. Et c'est à ce moment-là où l'Association française d'information scientifique a décidé de m'attaquer ad hominem comme étant le pire qui puisse exister sur la planète des sociologues. Il y a un petit passage sur Michel Calon, mais en disant, lui encore, ça va. Le pire, c'est Château-Renaud, alors c'est écrit en gros. Parce qu'en fait, je dis en gros une autre version de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, c'est important justement les controverses parce que ça ouvre des espaces, ça permet de voir ce que les gens savent, comment ils peuvent développer des apprentissages collectifs, créer des choses, etc.
Qui est-ce qui t'attaque là ?
Là, c'est Marcel Kuntz. Oui, bon, en plus, oui, mais c'est quand même. Ouais. C'est au nom de la FIS. Et dans ses repris sur leur site, etc. On voit ainsi poindre de nombreux thèmes chers au postmodernisme dans les sciences. Jamais revendiqué le postmodernisme, je pense. Bon. Cette idée que le pragmatisme, ça serait la même chose que le postmodernisme. Alors, il y a une explication. C'est Richard Rorty qui a joué un peu à mélanger les genres. Ça vient un peu de lui, c'est vrai. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette. C'est une histoire intellectuelle américaine. Participation des parties prenantes, alors ça, pour eux, c'est vraiment l'horreur. Coproduction des savoirs, c'est vraiment l'horreur absolue. Et mise en controverse de questions qui relèvent de la méthode scientifique, le tout accompagné d'une bonne dose de relativisme. Alors, ça m'a amené à réagir. J'ai mis un certain temps. Évidemment, ça renvoie à un partage de la sociologie. Une partie de la sociologie, au fond, part du principe qu'il peut se défendre. Hein. Je ne dis pas qu'en soi, il n'est pas sérieux. Au fond, les gens sont stupides et sont idiots. Hein. Que c'est normal. Sinon, ce serait des savants. Donc, d'un côté, il y a les savants, puis de l'autre côté, le populaire, le sens commun. Il faut rompre avec ça pour faire une science. Et donc, ils maintiennent ça. Et donc, du coup, l'objet de la sociologie, c'est d'écrire des croyances. Mais des croyances comme croyances. Et surtout pas les symétriser, parce que ça serait faire un acte de relativisme. Alors que nous, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit au contraire de regarder les opérateurs de factualité qu'utilisent les acteurs et quand ces opérateurs entrent en crise. C'est-à-dire justement, ils ont des incertitudes, ils ne sont pas d'accord, ça ne marche pas, ils dénient que ça ne marche pas, donc effectivement, ils se le prennent dans la figure en général, etc. C'est pour ça que les processus critiques sont des moments idéaux pour la révision des croyances, normalement. C'est-à-dire qu'après Fukushima, vous dites, bon, le nucléaire, c'est quand même pas une industrie absolument sûre. Ah ben si, vous avez des nucléocrates qui vous disent, ben, Fukushima est la démonstration que le nucléaire est absolument sûr. C'est notamment l'écologiste anglais, là, dont j'oublie le nom, qui dit, ben voyez, finalement, c'est le pire qui puisse arriver, en plus, 4 réacteurs, ben quoi. Et évidemment, ce qu'il oublie de dire, un, c'est que les conséquences sont toujours pas complètement... On est dans un conséquentiel de type 2, c'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, on n'aura pas le même jugement sur l'événement, que la situation a été sauvée par des actes totalement fous. Lisez les témoignages du directeur de la centrale qui ont été publiés en français l'année dernière, je crois, où le mec a balancé de l'eau de mer quand même sur les réacteurs, ça n'avait jamais été fait, c'était une première mondiale. Avec l'histoire des batteries de voiture pour essayer de mettre du jus, enfin des trucs complètement invraisemblables, et où au fond ça tient sur des machins, quoi. Et ça n'a plus rien à voir avec un système régulé. Voilà. Donc, bon, je renvoie à un de mes maîtres, malheureusement disparu, hein, Alain Desrosières. On sait répondre normalement à ces accusations de relativisme, et parce que justement, on s'intéresse peut-être plus au réel que ces sciences qui en font qu'une version extrêmement procédurale. Il y a plusieurs versions, hein, Desrosières en distinguait 4. Moi, je vais être plus parcimonieux, je vais en distinguer que 3. Mais je voulais revenir là-dessus. Gérard Bonheur, qui ne me cite jamais, mais moi je le cite, il ne regarde pas, c'est con, il est drôle, miracant, invitez-le, quoi. A fait en 2014 un édito dans une revue qui est consacrée au risque, hein, qui s'appelle Environnement, risque et santé, qui est fait qui contient pas mal d'études qui en fait relativisent pas mal de signaux en même temps, montrent qu'il y a des choses, enfin voilà, il y a de la pollution, c'est vrai, etc. Il dit, il y en a marre, quoi, les peurs contemporaines, etc. Et il dit, voilà, tout se passe comme si l'attention des opinions était tous les jours détournée par des donneurs d'alerte. Il n'a même pas foutu d'utiliser le bon concept. Et il dit, voilà, alors ils disent n'importe quoi, même l'air que nous respirons, hein, même l'air que nous respirons. Manque de bol, la revue sort ce jour-là. Est-ce que vous pouvez imaginer un gars qui vous donne des leçons d'épistémologie et qui aujourd'hui est à l'Académie de médecine, qui a ses entrées à France Culture, qui fait un truc comme ça, c'est une faute professionnelle lourde. Il y avait un pic de pollution, c'est ce que j'aime bien chez Air Paris, on en a discuté avec eux, supérieur à 100. Alors supérieur à 100, il n'y a pas inférieur à 200. C'est pas... On était effectivement dans un smog qui était... Voilà, la tour Eiffel avait disparu, c'était un peu l'image épinale qu'il y avait sur tous les écrans de télé. Donc même l'air qu'on respire, ces donneurs d'alerte sont vraiment excessifs. Hein. Là, si vous voulez, il y a quand même un problème de construction. Hein. Alors, nous, on va travailler plutôt là-dessus. On ne va pas dire qu'à chaque fois, X, Y a raison de dire « si j'ai le cancer, c'est à cause de ça ». On va regarder toutes les métrologies, toutes les formes, justement, que les acteurs vont se donner pour mener l'enquête. Et évidemment, parfois, on en avait oublié nous-mêmes. C'est-à-dire que dans les premiers moments de notre étude sur la pollution de l'air, on avait plutôt la bagarre sur les métrologies, les niveaux de dioxyde, de machin, de trucs, comment vous mesurez dans les villes, etc. On avait complètement oublié qu'en plus, on a des gens qui grugent. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, le Dieselgate. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles ont adapté leur système aux normes. Ce qui est un coup classique d'expert et faussaire. Le faussaire s'adapte à l'expert et l'expert au faussaire. Donc c'est une espèce de directive permanente. Si vous avez une norme, vous allez voir comment vous allez pouvoir optimiser votre truc ou l'utiliser au bon moment. Hein, avec tous les débats qu'il y a eu sur comment on teste le véhicule à l'arrêt, en roulant, etc. Bon bref, tout ça nous amène à avoir, nous, une version ouverte, et c'est ce que me reproche la FIS, hein, ce qui est drôle, de l'expertise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monopole de l'expertise qui tienne la route, et je crois que c'est de moins en moins vrai partout dans le monde. Il y a aujourd'hui nécessité de contre-expertise systématique, c'est du bon sens, des expertises collectives de plus en plus importantes, une expertise distribuée, c'est-à-dire qu'une pluralité d'acteurs qui ne se coordonnent pas nécessairement peuvent produire des données pertinentes sur un sujet, et évidemment une expertise qui est plus controversée, mais qui est pour nous intéressante en sciences sociales, qui est une expertise citoyenne, ouverte, à des acteurs qui étaient exclus de la boucle dans un premier temps. Voilà. Je vais accélérer un peu pour aller juste au moins à un point. Donc voilà, bon, ben après, les exemples, on les a étudiés, hein, les capteurs citoyens, les formes alternatives,
Par exemple, les conférences de citoyens, où, quand vous lisez cet avis du panel de citoyens, vous comprenez pourquoi il y a la violence du conflit à Bure aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement n'a absolument pas tenu compte de ce qui était dit par des gens qui, justement, n'étaient pas des activistes, des zadistes, ou des méchants gauchistes, qui aujourd'hui font l'objet d'une répression invraisemblable. Il y avait énormément de choses qui ont été dites. Et un truc, d'ailleurs, n'a pas compris Pierre-Benoît Joly, avec qui j'en ai discuté il n'y a pas longtemps, qui travaille pour l'ANDRA, bon, c'est son problème. Mais c'est qu'il me dit, ben voilà, une fois que ça sera sous terre, il n'y aura quand même plus les problèmes de gestion, il n'y aura plus besoin des gendarmes, etc. Je dis, mais c'est n'importe quoi, puisque pendant 100 ans, il y aura des transports. Et ça, les citoyens, dans leur conclusion, l'avaient dit. Vous n'avez jamais traité sérieusement la question de 100 ans de transport de déchets. Ce qui est quand même vraisemblable quand on y pense. Faites-moi. Voilà, ça c'était Fukushima avec l'alternative, hein, les capteurs. Voilà, j'en viens à ce schéma-là. Vous me dites, hein, parce que moi je suis hyper bavard, donc...
Essayez de tenir en un quart d'heure.
En quart d'heure, ouais, je vais le faire. Pour aller jusqu'au bout de dire on n'est pas relativiste, je me suis dit, reprenons à zéro la question de la preuve. Sérieusement, avec des mathématiciens. Pour les mathématiciens, une preuve idéale, elle est axiomatique. Mais en même temps, ils vous disent, c'est quand même mieux quand on peut jeter un œil sur la chose. C'est-à-dire que vous avez un robot qui va sur Mars, ben tiens, il y en a un qui vient d'atterrir. Il va vous prélever un truc... Puis il va vous calculer, il va vous envoyer des données, et puis dans vos centres de calcul, il va dire « Ah !» Non, non, il y a de l'hydrogène, et il y a un truc, oh, il peut y avoir de l'eau, quoi. Donc vous avez une preuve. Le problème, c'est que si vous pouvez leur ramener une forme visuelle, ou tangible, phénoménologique de la chose, c'est mieux. Et même les mathématiciens vous disent, en fait, la vraie preuve, c'est si vous dites « il n'y a pas d'éléphant rose, que vous amenez un éléphant rose », ou un signe noir, ça a été souvent l'exemple qu'on a pris, mais il y en a plein en fait. Mais alors, vous dire, ouais, mais il n'a pas été repeint, donc vous allez, le pauvre éléphant, vous allez devoir faire passer des tests pour vérifier que ce n'est pas un coup de peinture, mais n'empêche qu'à un moment donné, vous êtes obligé de dire, ah bah tiens, ouais, c'est incroyable, mais c'est encore un fou de chinois qui, dans son labo de génétique, a fait un éléphant rose, hein, que pour ennuyer les philosophes qui voulaient. Vous savez, il y a un gars qui l'a fait sur les poules, qui a fait des poules avec des dents. Rien que pour qu'on arrête de dire le jour. Rien que pas prouvé, quoi. Je crois qu'il a d'ailleurs des ennuis parce que c'était limite de point de vue éthique. Enfin, les poules n'ont pas demandé à avoir des dents, en fait. Bon. Donc, phénoménologie axiomatique, pour moi, ça va être un mouvement permanent qui fait que vous avez là un moyen de stabiliser des choses et on est très loin du relativisme. Il y a des axiomatiques. Par exemple, le GIEC fait tourner ce modèle du climat. À partir d'axiomatique, à partir d'un modèle Terre qui s'est autonomisé, comme un jeu d'échecs, si vous voulez, et quand vous ne pouvez pas vous arriver dire ah, je vais bidouiller les données à l'intérieur, et vous voyez, finalement, non, ça va se refroidir dans 10 ans. Quoi. En fait, ça résiste justement aux variations parce qu'il y a une autonomie, c'est ça une axiomatique qui résiste. Le phénoménologie, c'est quand vous allez pouvoir en plus avoir des retours continus d'enrichissement au fond des conclusions du modèle axiomatique par les conclusions phénoménologiques. Bon, tout le monde dit actuellement, vous avez vu l'été qu'on a eu. Bon, c'est intéressant, avec les sécheresses, les incendies, les événements extrêmes, etc. Mais c'est pas tout, et c'est là où je pensais à Desrosières, mais à Thévenot, il y a tout ce qui s'est fait autour du conventionnalisme. Pour qu'une preuve soit efficiente dans le monde qui est le nôtre, il faut qu'elle passe par des conventions. Et que ces conventions aient une stabilité. Et donc, des accords, des ontologies sur lesquelles les acteurs sont tombés d'accord. On négociait, au fond, des catégories, par exemple.
La science normale.
Ouais. Enfin, ça peut être ça. Mais c'est surtout qu'au fond, il y a une collection de principes d'équivalence, de catégorisation, de codes, de standards, de normes, qui ont fait l'objet d'un travail, parfois un peu arbitraire au début. C'est comme les talons, machin, là, où ils ont changé tout le kilo, là, j'ai pas tout suivi en détail. Mais c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que tout était conventionnel, au sens... C'est pas conventionnel intégralement parce que la convention elle va tenir compte des expériences phénoménologiques, sinon elle devient vite inefficiente. Si vous avez par exemple un code de la route qui ne tient absolument pas compte de l'expérience de la route, très vite vous allez avoir des tensions. Vous allez devoir rajouter des articles, soit vous allez sanctionner tout le monde. Moi j'ai souvent pris l'exemple, dans le code de la route vous avez quand le conducteur entame un dépassement, il doit vérifier dans son rétroviseur extérieur, que le conducteur qui le suit a compris la manœuvre. Alors, vous le faites vraiment. Vous vous déportez sur l'autoroute, vous regardez dans le truc, et le mec derrière dit, il me fait de l'œil ou quoi que c'est sûr. Vous avez une interaction qui n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec la définition dans le code. Donc, tout le travail pour faire tenir ce triangle, c'est un énorme travail collectif. Je veux dire, il faut parfois des siècles, hein, pour stabiliser que les conventions, l'axiomatique et l'expérience finissent par tenir ensemble de manière robuste pour produire quelque chose de tangible. Et c'est pour ça, alors c'est un modèle, donc il est là pour servir à faire des tests, que sur la plupart des dossiers qu'on a, arriver au niveau de preuve idéal, c'est toujours quasi impossible, parce que soit ça va lâcher du côté des conventions, soit ça va lâcher du côté des phénomènes, soit ça va lâcher même du côté de l'axiomatique. Alors, j'avais pris deux exemples, et je vais passer vite. Hein. Le climat, bon là, c'est peut-être ce qui est plus facile. Pendant très longtemps, pourquoi le signal climatique n'a pas été pris au sérieux? C'est parce que c'était trop axiomatique et qu'il fallait construire les conventions. À partir de Kyoto, il y a eu un début de conventionnalisation du problème, et on voit bien que c'était les intérêts économiques qui dominaient la vision des choses, etc. Aujourd'hui, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les scientifiques prennent appui sur cette axiomatique pour, au fond, lancer une alerte globale et dire « vous avez rien compris, en fait, c'est l'ensemble de... » C'est bon, maintenant on a la preuve. On n'est plus dans quelque chose qui simplement, hypothétiquement, peut-être qu'en 2050... Donc c'est intéressant, ce changement de... Pour pouvoir le décrire, il faut avoir cette espèce de modèle idéal vers lequel tendent les acteurs et de voir les étapes de construction. Et si il vous manque une connexion, en fait, il y aura forcément des acteurs qui vont pas forcément mettre en gilet jaune. Soyons charitables et essayons de comprendre les acteurs. Mais en tout cas, le climato-scepticisme est toujours possible. Ça, c'est un bon exemple. D'autant que dès qu'on regarde les modèles du GIEC, on a ces belles courbes qui circulent dans les médias, mais ce que ne circule pas, c'est ça, qui est une représentation. Évidemment, c'est pas le réel. Mais vous voyez déjà la complexité qui est sous-jacente. Vous voyez que, un peu comme dans le modèle qu'on a fait avec Josquin, avec ses différents moments, les milieux vont redevenir acteurs du modèle Terre. C'est-à-dire vous avez plein d'interactions de toutes sortes. Et c'est vraiment figuré de manière très, très schématique. Et il va falloir tenir compte de ça. En plus, on sait très bien qu'il n'y a pas que le CO2. Vous avez de l'azote, vous avez du méthane, vous avez toutes sortes de choses. Et au fond... les gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus compliqué du fait des effets d'inertie, justement. Et vous savez qu'ils ont retrouvé des HFC, là, qui aurait dû chuter, en fait, qui ne chute pas autant que ça. Ce qui veut dire que la régulation du fameux protocole de Montréal des années 80, qui avait marché un certain temps, qui était un peu présenté comme... Vous voyez, quand les États s'y mettent et qu'ils veulent réguler quelque chose, ils y parviennent. En gros, il fallait changer essentiellement les types de réfrigérants dans les frigos, les trucs comme ça. Là, apparemment, il y aurait un nouveau départ. Alors, ça viendrait d'Asie du Sud-Est. Ils ont essayé de tracer le truc. Où il y aurait apparemment de nouvelles techniques qui utiliseraient des gaz. Donc, c'est jamais complètement stabilisé parce que justement, il y a toutes ces interactions qui vont renaître et qui vont produire cette complexité dans laquelle on baigne. Alors je passe, mais les perturbateurs endocriniens, c'est un autre exemple sur lequel on a montré qu'on ne pouvait pas être plus stupide que les acteurs, puisqu'ils ont un raisonnement non monotone, c'est même la revendication, hein, non-monotonic dose responses. Vous savez qu'en matière d'évaluation des risques sanitaires, très souvent, on avait une hypothèse de linéarité entre vous montez la dose et vous montez le risque. En fait, dans le cas des perturbateurs endocriniens, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans plein de cas, pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est qu'effectivement, le corps ne voit pas le signal. Et comme il ne voit pas le signal, du point de vue hormonal, il se détraque. Alors que si vous augmentez la dose, paf, il y a un système de défense qui se met en place. C'est un peu imagé, hein, ce que je raconte. Mais toutes ces études ont convergé. Là aussi, c'était un long travail pour arriver à amener les preuves. Parce que se battre contre un paradigme qui était quand même... c'était Paracels. Donc c'était quoi, Paracels? Ouais, c'est ça. Donc, vous avez plusieurs siècles qui vous contemplent à chaque fois que vous la ramenez, et vous avez l'Académie de médecine avec Bronner en plus à l'intérieur, donc vous ne pouvez plus rien faire. C'est quoi ? Non, mais c'est ça, c'est nos controverses, c'est des jeux de force. Alors sur les pesticides, c'est la même chose. Des coalitions d'acteurs incroyables qui se forment, hein, qui font avancer les dossiers, parce qu'il y a justement de la force qui se coagule dans les collectifs. C'est jamais totalement les arguments tout seuls, hein, c'est vraiment les arguments portés par des acteurs et qui permettent progressivement de déplacer les lignes Et ce qui fait que moi, je suis moins pessimiste que certains, et je vais en arriver là. Bon, je passe sur le glyphosate, je voulais vous refaire l'histoire des agents d'expertise, mais en fait, je vous renvoie à une émission de Schneiderman, où il y a Foucard, Huette, et puis un gars de la FIS, d'ailleurs, sur la querelle des expertises au propos du glyphosate. Arrêt sur image, merci. Si vous ne l'avez pas, je pourrais le filer. On m'a refilé l'émission. Ça dure une heure, mais il se bagarre pour arriver à expliciter quel est le problème. Pourquoi on n'arrive pas, alors que tout le monde veut arrêter le glyphosate, pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter? Et ensuite, surtout, pourquoi cette question de preuve bloque, hein, puisque le CIRC a dit cancérogène probable, donc classe 2, et les autres agences disent rien à voir, circuler. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension de l'opinion sur ces questions. Je pourrais le refaire là. Mais si vous voulez comprendre l'histoire du glyphosate, vous voyez que là, de manière schématique, c'est très compliqué. Et surtout, sur les glyphosates, comme sur l'amiante, comme sur le tabac, comme sur le truc, vous avez des éléments qui sont évidemment extra-scientifiques, qui viennent complètement redéfinir les enjeux de la recherche scientifique et de l'expertise. Et une littérature aujourd'hui... qui ne cesse d'augmenter, qui est au fond comment l'ignorance ou le doute est produit évidemment par des jeux d'influence à l'intérieur des milieux d'expertise. Voilà. Donc, sur le futur, en deux minutes, si on se met à regarder systématiquement comment toutes ces controverses font bouger ou pas les visions du futur, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une surenchère de propositions, même une sémiologie, pour figurer en fait l'avenir proche ou lointain. Alors là, vous voyez, on est dans le proche, mais vous voyez qu'en 2020 ou un peu après, on aura une médecine donc, qui permettra au fond de ne plus vieillir. Le cancer, ça sera une grippe, ou presque. Plus de problèmes de fertilité, et puis on aura une médecine régénérative, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous aurez un coup de boum, un coup de mou, pof, vous allez repartir en super-héros, pas de problème, etc. Ça, c'est une version qui est donnée notamment par un spécialiste des nanobiotechnologies. Et donc, plein d'acteurs développent des visions de futur. Donc, on a un peu extrait, à un moment donné, de toutes nos descriptions, ces questions de futur en particulier, pour les penser différemment. On avait l'option qui marche bien, hein, que moi je défends contre d'autres qui sont très agressifs, qui est la prospective. La prospective surtout à la française, qui est beaucoup développée au CNAM. Alors après, dans la tradition Gaston Berger, qui a été reprise par les uns et par les autres, qui consiste à chaque fois à faire des scénarios, ne pas avoir une vision figée du futur, ouvrir les possibles, et faire la part entre ce qui est possible et désirable. C'est pas parce que c'est possible que vous êtes désirable. Je veux dire, on est d'accord. On peut relancer le nucléaire, hein. C'est parfaitement possible. Voilà. Donc cette question en fait du débat public éclairé par la production de scénarios. Et la balistique, qui elle avait une vision un peu mécaniste d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'à chaque nœud de controverse, des futurs étaient abandonnés et de nouveaux futurs pouvaient s'ouvrir. Hein, par exemple, les gaz de schiste, imaginez simplement que vous ayez envoyé les gardes mobiles une bonne fois pour toutes sur les 15 000 crétins qui se retrouvaient à Villeneuve-de-Berg. J'y étais pas, mais j'aurais pu y être, parce que je voulais bien l'Ardèche, et qui était la plus grande manifestation qu'il y ait jamais eu en Ardèche dans l'histoire récente du pays, et qui était contre les gaz de schiste, et où il y avait effectivement... Imaginez que ça a été vraiment réprimé. Paradoxalement, ça n'a pas été tellement réprimé, et en fait, le gouvernement a légiféré assez vite en disant « no fracking ». Bon, ils n'ont pas dit « no gaz de schiste », parce que c'est un débat aussi. Hein. Mais en tout cas, de fait, ça revient pour l'instant à bloquer cette industrie. Donc, les futurs... se replient, se rouvrent. Les rouvrir, c'est un certain coût, comme diraient les économistes. Il y a un coût de réversibilité. Calon avait un peu travaillé là-dessus. Voilà. Bon, tout ça, je passe. Ça, c'était l'exemple de Négawatt. Vous voyez, Négawatt, il nous amène en 2050. Hein, il se cale sur l'échelle temporelle du GIEC. Je passe. Celui-là, je n'ai jamais réussi à le présenter intégralement, donc de toute façon, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Non, mais c'est important, lisez-le, parce que c'est en ligne depuis longtemps. C'est en gros, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs régimes d'énonciation du futur. Vous pouvez raisonner en termes d'urgence, en termes d'anticipation, de prospective, de promesse, de prophétie. Et vous n'avez pas les mêmes contraintes selon le régime dans lequel vous êtes.
Il est en ligne où
Sur Academia, sur... il a été publié en partie dans le... En partie parce qu'il m'avait amputé quelques passages dans le bouquin de Dominique Bourg et compagnie, après Cerisy, en fait. Voilà. Donc je m'arrête là-dessus. C'est dommage parce que vous ne verrez pas que la fin du monde n'est pas aussi terrible que ça, mais on verra dans la discussion. On est actuellement pris entre quatre grands récits, des narratives, on dit, dans le monde anglo-saxon. Le récit de l'effondrement, qui a une puissance d'expression, bon, c'est pas que Servigne, hein, depuis Tinter, ça a fait des petits partout. Au fond, bon, le climat, c'est un bon exemple, la perte de biodiversité, on n'en parle pas, la déplétion, c'est-à-dire la perte des ressources, la désorganisation des formes de vie du fait justement de l'accumulation des contraintes sur les villes, par exemple. L'effondrement à court et moyen terme et va organiser la manière dont vous allez voir toutes ces controverses. En fait. Inversement, vous avez le discours de la rupture technologique. C'est-à-dire qu'au fond, géo-ingénierie, nanotechnologie, CRISPR-Cas9, intelligence artificielle, conquête de l'espace, fusion. J'ai oublié ITER, parce qu'on a oublié ITER, on n'en parle plus, le débat public s'est calmé. Bon, vous savez qu'on a la fusion nucléaire bientôt, enfin bientôt. Faire tout le monde, parce que c'est un outil de recherche. Et donc vous avez en fait un futur plutôt radieux, mais fondé sur la rupture. Il faut vraiment mettre le paquet dans l'innovation scientifique et technique, ouvrir les vannes de ce point de vue-là. Évidemment, entre les deux, il y a une friction, mais on peut très bien s'appuyer l'un sur l'autre. C'est-à-dire, ça va s'effondrer précisément parce que ces crétins, ils croient que c'est par la technologie que... Voilà, c'est Jacques Ellul, à la limite. Hein. Inversement, il faut la rupture technologique pour éviter l'effondrement. Tout ça est dialectique. Mais il y a deux autres grands récits. Il y a le récit de l'adaptation-régulation, qui actuellement est un peu en berne, je dois reconnaître. Moi, j'y ai cru. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, les institutions, les agences, par la participation des publics, par l'assessment intelligent quoi, des problèmes, aux bonnes échelles, avec des outils partagés, du numérique, etc., au fond, on revoit nos manières de gouverner les choses. Alors, vous évitez du mettre Bruno Latour parce qu'il va vous mettre la pagaille. Vous le mettez plutôt, vous le balancez plutôt de l'autre côté, seul face à Gaïa. Et en gros, vous arrivez à faire des systèmes de veille. Et hop, vous avez un départ de grippe aviaire à Hong Kong. Poum, terminé, en trois jours, c'est sous contrôle. Alors, bon, sur Ebola, ils ont un peu foiré, mais quand même. Puis voilà, on va développer des réseaux de plus en plus serrés où en fait on va pouvoir réguler tout ça et mailler au fond. Alors sur l'énergie, c'est ça, au fond, c'est ce modèle-là qui est censé prendre. Ou alors celui de la rupture. Hein. Enfin, c'est un peu tout ou rien là, en l'occurrence. Et puis le modèle que moi je valorise en plus personnellement en tant que citoyen, mais qui n'est pas du tout dominant, hein, qui est en tension avec les quatre, c'est les contre-anthropocènes. C'est-à-dire les alternatives multiples, les micro-mondes, les jardins partagés, les transitions, toutes sortes de territoires autonomes, décroissants, le reclaim, qui est une revendication de l'écoféminisme, c'est-à-dire où vous reprenez en main les choses, hein, d'une certaine manière, et vous avez en fait là quelque chose qui aussi irrigue énormément de réseaux et d'institutions. Et c'est vrai que là, l'idée, c'est de rester en spectateur, c'est facile, et de constater qu'au fond, il faut arriver à cheminer sans valoriser trop. Moi, j'aurais tendance à valoriser trop ceux d'en bas, là, qu'on en possède. C'est-à-dire que les solutions sont locales, à l'initiative des gens, à leur portée, et doivent percoler, en fait, comme ça. Mais c'est une vision normative. En fait, il doit y avoir un peu des cartes qui vont forcément configurer le futur proche. Voilà, je m'arrête là-dessus parce qu'ensuite, c'est pas drôle puisque ça s'effondre pas en fait. Merci.